France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions Politiques. Presque deux semaines depuis son arrivée à Matignon, Sébastien Lecornu consulte et la rupture se fait attendre. Alors certes, quelques gestes, les deux jours fériés travaillés, supprimés, les avantages à vie des premiers ministres, symbole enterré, comme au passage le SNU. Quant au cœur du problème, le budget 2026, la copie de François Bayrou reste-t-elle toujours d'actualité ? Silence à Matignon. Sébastien Lecornu ne sortira de l'ambiguïté qu'à ses dépens, comment pourrait-il en être autrement ? Les oppositions, les partis, les syndicats, le patronat, à Matignon, dans la rue, chacun a tracé ses lignes rouges sous les yeux d'un Premier ministre à la majorité introuvable. Dans le débat public, nous en sommes à envisager qu'un gouvernement tombe avant même de connaître son casting ou sa feuille de route. Premier ministre recherche stabilité désespérément, le Rassemblement national écrit une bonne partie de ce scénario. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont-ils déjà prévu la censure au chapitre suivant ? Précipiter la chute, est-ce compatible avec l'image d'un parti responsable, respectable ? Le président délégué du groupe RN à l'Assemblée et député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, est notre invité dans Questions politiques. Nous sommes en direct sur France Inter, France Info, la télé Canal 16 et en partenariat avec le journal Le Monde jusqu'à 13h.
France Inter, Questions politiques, Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Madame Ben Saïd, merci pour votre invitation.
Merci de l'avoir accepté. À mes côtés pour vous interviewer, je salue mes confrères, consoeurs, Alix Bouillaguet de France Télévisions. Hello Alix.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Bonjour.
Grâce à vos questions, nous allons en apprendre plus sur l'homme politique.
Oui, Jean-Philippe Tanguy, c'est un CV impressionnant, une ascension éclair, la tête pensante du RN, le moine soldat de Marine Le Pen, c'est aussi un style indéniable.
Ça sera la séquence Qui êtes-vous, Jean-Philippe Tanguy ? On verra ça tout à l'heure. Je salue Abel Mestre du journal Le Monde, également en plateau. Bonjour Abel.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Vous, c'est la séquence France 2027, les grandes questions qui seront au cœur de notre débat pour la présidentielle. Ce matin, Abel, vous mettez en lumière la question
du pouvoir d'achat. Ce fut l'un des marqueurs de la campagne 2022 de Marine Le Pen. Qu'en sera-t-il en 2027 ?
Mais tout de suite, Jean-Philippe Tanguy, l'actualité. Dans le feuilleton que nous vivons collectivement, il y a un scénario où des forces politiques parviennent à s'entendre sur une non-censure de Sébastien Lecornu à Matignon. Au Rassemblement national, vous l'avez vu, 2h, c'était mercredi. Est-ce que vous avez vraiment envie d'un compromis ?
Pas à n'importe quel prix, c'est sûr, et même, il faut être honnête, c'est vrai qu'il y a assez peu de chemin où la Macronie qu'incarne M. Lecornu est capable de se réformer elle-même, tant et si bien qu'il y a une rupture dans la politique qui est menée. Si vous, la stabilité, ce n'est pas le maintien au pouvoir de la politique d'Emmanuel Macron. Ça, c'est ce qu'ils essaient de faire croire. Mais cette stabilité, c'est l'effondrement des comptes publics, on l'a vu, la reprise de la désindustrialisation, une immigration qui n'est pas contrôlée, l'effacement de la France de la scène internationale dans son rôle traditionnel.
Bref, vous avez peu d'espoir. Ce que j'entends, c'est que franchement, oui, là, vous laissez, vous dites que le chemin n'existe quasiment pas.
Oui, non, mais c'est vrai que le chemin n'existe quasiment pas. On ne va pas mentir aux électeurs, mais je pense que Marine Le Pen et Jordan Bardella n'ont pas menti non plus à Sébastien Lecornu quand ils l'ont rencontré, d'après les interviews qu'ils ont données après cet entretien et ce matin chez vos collègues de la presse écrite. Donc, la balle est dans la main de Monsieur Lecornu. Enfin, c'est lui qui a accepté d'être Premier ministre, donc c'est sans doute qu'il avait des projets pour la France, et c'est surtout Emmanuel Macron qu'il choisit de ne pas résoudre la crise politique par une dissolution, qui serait quand même le moyen le plus convenable par rapport à la gravité de la situation.
Voter la censure avec LFI dans 10 jours, là au moment de la déclaration de politique générale, est-ce que c'est possible pour le Rassemblement national ?
Oui, c'est possible, parce que ce soit avec LFI ou les autres, ça n'a pas d'importance. La question, c'est est-ce qu'on pense qu'une autre solution est meilleure pour la France et pour les Français. Et c'est ce que nous avons pensé à de nombreuses reprises. Pourquoi, depuis un an, nous n'avons pas voté 8 motions de censure sur celles qui étaient proposées ? C'est parce que la dissolution n'était constitutionnellement pas possible. C'est-à-dire qu'une partie de la gauche voulait renverser le gouvernement de François Bayrou sans solution institutionnelle. Et donc renverser pour renverser n'a pas beaucoup de sens. Et est-ce qu'on peut renverser soit pour éviter le pire, par exemple le budget de M. Barnier qui prévoyait 4 milliards de taxes sur l'électricité, la désindexation des retraites, le non-remboursement de beaucoup de médicaments. Là, on a voulu éviter le pire. Mais la réforme des retraites, par exemple, sur lequel la gauche avait fait une censure, c'était absurde, puisque le renversement de M. Bayrou n'aurait pas remis la retraite à 62 ans, donc c'était un mensonge.
Mais Jean-Philippe Tanguy, vous êtes ce parti qui dit, Jordan Bardella, il écrit au patron, il dit « nous sommes le parti de la stabilité politique ». Marine Le Pen, ce matin, dans le journal du dimanche, elle dit « nous sommes le seul parti à défendre la Ve République ». Là, on replongerait dans une nouvelle instabilité. Est-ce que c'est vraiment le bon positionnement pour le Rassemblement National ? Est-ce que vous n'auriez pas cette responsabilité-là de replonger la France dans une nouvelle crise, de nous enfoncer dans la crise ?
Non, parce qu'en fait, la crise, elle est là. C'est-à-dire que le poids politique des gouvernements est si faible qu'en fait, vous pouvez avoir une apparence, une illusion de stabilité à Matignon, mais il n'y a pas de stabilité dans les politiques. Vous voyez, par exemple, le taux d'emprunt, l'écart de taux d'emprunt avec l'Allemagne, le fameux spread, qui fait un peu la pluie et le beau temps sur notre capacité à nous endetter à bas coût, a augmenté depuis la dissolution d'Emmanuel Macron. Il se réduit, il augmente avec les péripéties, mais le vrai choc, il a eu lieu avec ces dissolutions. Et donc, cette instabilité choisie par Emmanuel Macron avec une campagne législative, je le regrette, qui ne s'est pas fait sur le fond, mais uniquement sur une hystérie pour ou contre le Rassemblement National, venant de toutes parts. Et à la fin, une fois que l'écran de fumée est retombé, eh bien, tout le monde se rend compte, y compris une partie de nos adversaires, qu'il n'avait rien à proposer pour le pays.
Alors, vous dites, on pourrait arriver à la stabilité. Si on fait une dissolution, vous imaginez peut-être que le Rassemblement National puisse accéder à Matignon. En tout cas, Marine Le Pen, elle dessine ce scénario ce matin dans son interview. Et elle accepte pour la première fois, elle dit, on pourrait accepter d'aller à Matignon sans majorité absolue, avec une majorité relative, qu'on chercherait alors à renforcer, y compris avec ceux qui nous insultent. Éclairez-nous, Jean-Philippe Tanguy, à qui vous faites ce signal politique ? De qui parle-t-elle, Marine Le Pen ? Avec qui vous pourriez nouer des alliances ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lors des dernières élections, il faut bien dire que tout le monde nous a insultés pour faire barrage et pour garder des postes. Donc par définition, quand vous voulez rassembler, quand vous ambitionnez, comme Marine Le Pen, de diriger pour l'intérêt général, comme l'avait fait le général de Gaulle quand il est revenu au pouvoir, il a beaucoup pardonné le général de Gaulle à des gens qui avaient été très durs avec lui, qu'il avait traité quelques semaines ou quelques mois auparavant de dictateur ou de fasciste en herbe, et puis après, ils avaient fait évidemment avec le seul qui était capable de rétablir la situation. Donc c'est le parallélisme avec Marine Le Pen, il est évident, il saute aux yeux. Donc il y a des gens de bonne volonté avec des capacités dans toutes les forces politiques.
Allez, soyons un peu plus cash. Vous êtes beaucoup plus direct.
J'allais finir
allez-y.
À ma phrase. Hein. Ouais. Et donc naturellement, comme l'a fait le général de Gaulle, c'était plutôt dans les forces de droite ou de centre-droite. Naturellement, je ne vois pas aujourd'hui des personnalités de gauche. Je le regrette parce que dans le passé, Marine Le Pen avait pu attirer un certain nombre de souverainistes de gauche. Bon, faut dire que électoralement, il en reste pas beaucoup pour venir nous aider.
Mais c'est quoi ? C'est Laurent Wauquiez ? C'est qui ? C'est LR ? Est-ce que c'est Reconquête ? Est-ce que c'est Sarah Knafo ?
C'est-à-dire que ce sera beaucoup des personnalités individuelles finalement, parce que LR comme parti n'existe plus. Je pense que vous êtes des observateurs et observatrices attentives de la situation politique. Quand LR dit on vote quelque chose, en fait, il y a trois position de vote, voire plus. Disent oui, c'est non. Parfois l'abstention, ils sont pas là, ils votent avec les pieds. Bon, donc en fait, faire des accords d'appareil, ça n'existe presque plus. Ce sera forcément des bonnes volontés, plutôt des bonnes volontés de droite ou de centre-droite. Mais enfin, on ne sait jamais. S'il y a des souverainistes de gauche, des gens de la gauche républicaine qui veulent participer à un gouvernement de redressement national, Marine Le Pen a toujours dit que la porte leur serait ouverte. En tout cas, je vais vous dire. Vu la crise, ce qu'il faut surtout, c'est des gens compétents, qui ont des compétences, des valeurs à apporter, plutôt. Comment dire que des accords d'appareil qui, à mon avis, n'ont plus grande valeur.
Une dernière question d'actualité, parce que je vois mes collègues mourir d'envie d'ouvrir le dossier économie. Vous êtes le monsieur économie du Rassemblement National. Il y a quelque chose qui est au centre du débat, c'est cette taxe Zucman. On a Bernard Arnault qui, au Sunday Times, qualifie l'économiste Gabriel Zucman de pseudo-universitaire et de militant d'extrême-gauche. Vous en pensez quoi, vous, Jean-Philippe Tanguy ? Est-ce que taxer les ultra-riches, vouloir le faire, c'est du militantisme ou bien de la justice fiscale ?
Non, mais je pense qu'on peut avoir un débat avec M. Zucman ou d'autres sans, les attaquer personnellement. Le problème de la taxe Zucman, je trouve qu'elle est intellectuellement très faible. C'est-à-dire, quand on connaît les travaux qui sont faits sur la justice fiscale ou l'accroissement des inégalités de revenus et de patrimoine depuis l'ouverture des marchés dans les années 80 ou 90, marchés de capitaux et la mondialisation malheureuse, dire que l'aboutissement de cette réflexion, c'est qu'on prend les plus riches, ceux qui ont 100 millions, plus de 100 millions de patrimoine, et on met une taxe de 2%, enfin, ça me paraît quand même une solution très simpliste, un peu un slogan. Donc moi, il est là, mon débat.
Mais sur Bernard Arnault, quand vous entendez Bernard Arnault, comment vous qualifiez ça ? Est-ce que vous êtes...
Mais pourquoi il le dit ? Parce que Bernard Arnault, avec cette taxe, il devrait aller à la perception avec un chèque de entre 1 et 2 milliards d'euros. Et en fait, on voit bien que c'est pas crédible. Est-ce qu'on imagine ? Parce qu'en fait, on dit que c'est 1 800 foyers qui seraient concernés par cette taxe. bon, la base de travail est très faible. Mais en réalité, ça se concentrerait sur une douzaine de personnalités extrêmement fortunées, effectivement, avec un capital monumental, et il est évident que ces personnes ne resteraient pas en France et ne paieraient jamais cette taxe. Donc en fait, ce qui est dommage, c'est que il y a des propositions dans le débat politique, en particulier l'impôt sur la fortune financière, ou d'autres taxes sur la spéculation, taxes sur les rachats d'actions, sur les cires dividendes, sur les surprofits, qu'a proposé Marine Le Pen depuis 2022 avec Jordan Bardella. Malheureusement, je constate que ça n'a jamais été au centre des débats et on n'a pas eu beaucoup d'échanges intellectuels sur ces propositions, c'est dommage. Contrairement à la taxe Zucman qui est partout, aux 20h, dans toutes les presses partout, depuis deux semaines, parce que les socialistes ont choisi de le mettre dans l'actualité.
Alix Brouillaguet,
je trouve que techniquement, c'est faible.
Jean-Philippe Tanguy, on a le sentiment à vous écouter là que effectivement vous n'êtes pas pour la taxe Zucman, mais expliquez-nous pourquoi le Rassemblement National a voté la taxe Zucman en commission à l'Assemblée Nationale, mais s'est abstenu lors de la discussion de l'hémicycle. Pourquoi cette volte-face? Est-ce que c'est parce que 75% des sympathisants RN adhèrent tout simplement à la taxe Zucman? Est-ce que vous êtes mal assis?
Non, il y a 18 mois de différence entre le sondage et les positions de vote. Donc je ne suis pas encore Madame Irma. J'aimerais bien, ça m'aiderait beaucoup en politique. Je ne peux pas deviner ce que vont penser mes électeurs. Non, mais c'est très simple, c'est la question de Madame Betsaïd, c'est la justice fiscale. Nous ne voulons pas laisser le monopole de la justice fiscale à la gauche, puisque nous avons des propositions, on essaie de les faire entendre depuis deux ans. Je regrette effectivement
qu'on en parle. Mais cette incohérence à l'Assemblée nationale.
Non, mais là, franchement, c'est pas une incohérence. Ça, il faut vraiment. Moi, j'invite vraiment les commentateurs de la vie politique à faire attention à ça. Vous pouvez avoir des positions. Moi, je les explique ces positions. Donc, tout le monde peut reprendre mes prises de parole. Nous avons voté en commission parce qu'on voulait que le débat se tienne. Si on votait contre en commission, la loi, elle s'était problématique pour aller en séance. Et en tout cas, les amendements tombaient tous pour faire de la technique parlementaire. Et en séance, il y avait suffisamment de voix de gauche, et surtout les centristes et LR avaient complètement disparu, donc on pouvait envoyer la loi au Sénat juste avec une abstention. Donc c'est pour ça, c'est pas qu'on a changé de... D'ailleurs, je le dis devant tout le monde, devant la représentation nationale avant de voter, j'explique c'est cette position. Nous ne voulions pas tuer le débat sur la justice fiscale.
Et donc vous n'avez pas changé d'avis?
Non mais justement parce que le Rassemblement National, Marine Le Pen et Jordan Bardella veulent un débat sur la justice fiscale. C'est pas le racket, c'est pas rajouter des taxes aux taxes, mais fait aujourd'hui les classes moyennes, paient proportionnellement à leur patrimoine et leurs revenus plus que les 1% de plus riches. Donc ça, c'est anormal, c'est une anomalie technique, c'est une anomalie morale, il faut la régler par un débat de qualité, et c'est pour ça qu'on a laissé... Et c'est un peu, si vous voulez, triste, c'est pas vous, mais je vois les adversaires de gauche qui savent, les députés qui étaient présents, que nous nous sommes abstenus pour faire vivre le débat, et qui, au lieu de reconnaître que le Rassemblement National... protège le débat démocratique et fait pas dans le sectarisme, on nous l'envoie en pleine figure. Je trouve que c'est un peu minable.
Question d'Abel Mestre.
Vous, hein, mais eux.
C'est pas une manière aussi de botter en touche pour vous, parce qu'on a l'impression que une sorte de grand flou, vous n'allez pas au bout, vous parlez de justice fiscale, mais on fait une justice fiscale sans taxer vraiment les riches, en fait, on veut ménager tout le monde. Est-ce que ce n'est pas un risque aussi pour vous de perdre vos électeurs?
Mais non, mais pas du tout. Enfin, sincèrement, le programme de Marine Le Pen, il est régulièrement, mis en accusation par une certaine presse, et à chaque fois, on le reconfirme. C'est-à-dire qu'on nous accuse de ne pas l'y croire, et c'est le même programme. Donc Marine Le Pen, vous le savez, vous la suivez depuis longtemps, à Libération, a toujours défendu des mesures sur le patrimoine des plus aisés.
Comment? Je ne suis pas Libération.
Ah pardon, excusez-moi. Non,
le Monde, c'est
excusez-moi. De mémoire, c'était à Libération. Excusez-moi. Mais a toujours proposé des mesures de justice fiscale. Ça nous a toujours été reproché par une certaine droite, en particulier les Zemmouriens. Toujours. On est très lourdement attaqué là-dessus. C'est nous qui avons mis dans le débat public français en premier la question des rachats d'actions. C'est quand même, selon les années, entre 15 et 30 milliards d'euros de dividendes qui, au lieu d'être réinvestis dans l'économie réelle, viennent en effort sur la spéculation, viennent pour renforcer des cours de bourse qui sont déjà à un niveau historique très élevé. On a mis ce débat au centre du débat, et après, c'est attribué à la gauche. Donc franchement, il y a une forme d'injustice quand même dans la contribution intellectuelle que Marine Le Pen a eue sur la justice fiscale depuis des années, parce qu'on est toujours soupçonné de je ne sais quelle insincérité. Alors, le programme n'a jamais changé. C'est juste que c'est un programme de justice fiscale, c'est pas un programme de lutte des classes, qui vise à taper sur les riches parce qu'ils sont riches. C'est juste comment on fait pour que ce soit juste et aussi économiquement efficace.
Alors justement, l'efficacité
mais il y a un rapport de force économique.
Est-ce que je peux vous parler de cet impôt sur la fortune financière? Parce que, donc si on comprend bien, les trois quarts de vos sympathisants électeurs sont pour la taxe Zucman. Vous dites, non, il y a quelque chose qui serait beaucoup mieux, ça serait l'impôt sur la fortune financière. Il y a plusieurs sujets quand même. Il y a d'une part que votre impôt sur la fortune financière, il rapporterait combien? quelques milliards, alors que la taxe Zucman aurait un très fort rendement. Et il y a un autre sujet qui est que si on décortique la technique, le riche propriétaire immobilier qui ne crée rien pour l'économie ne paiera rien, et que celui qui a des actions, qui investit par définition dans les entreprises, eh ben il va être taxé. Est-ce que ça, c'est de l'efficacité économique ?
Oui, je pense que c'est de l'efficacité économique. Alors, c'est pas tout le patrimoine immobilier qui serait protégé, c'est la résidence principale ou la résidence unique, parce que vous savez, ça fait 30 ans qu'on a l'anecdote de la maison à l'île de Ré familiale, qui fait que vous avez des gens qui ne vivent pas dans leurs biens familiaux, et ce bien familial était taxé. Donc la résidence unique, qui est un concept qui a été inventé par Marine Le Pen, permet de protéger le patrimoine immobilier familial.
C'est très particulier.
Par contre, les actions qui sont vraiment des actions d'investissement, de prise de risque, elles sont exonérées dans l'IFF. C'est les 75% sur les PME-PMI, des actions de PME-PMI, et c'est les biens professionnels. Voilà, aujourd'hui, investir dans les actions sur les grands marchés, les grands indices, c'est rarement de l'investissement. Voilà, c'est dans l'outil productif, c'est une espérance de rentabilité. Ce qui ne fait pas, c'est pas mauvais, mais il ne faut pas faire croire que c'est un investissement dans l'économie réelle. Quand vous achetez des actions de Total, ça ne définit pas le montant d'investissement de Total dans l'économie réelle. On est dans un autre monde. Voilà. On peut le regretter d'ailleurs, moi je le regrette. Et d'ailleurs, quand vous dites que le rendement de l'IFF...
C'est combien, vous l'évaluez à combien ?
Entre 3 et 5 milliards.
C'est-à-dire moins que, au maximum comme l'ISF, mais moins que l'ISF.
Oui, mais en net de l'IFI, parce que nous on remplace effectivement par les dispositions que vous avez données l'IFI. Mais le rendement de la taxe Zucman, moi, d'ailleurs c'est pas que moi, c'était dans Le Monde pour le coup, une tribune, qui l'établit aussi entre 15 et 5 milliards. Et franchement, c'est vraiment Merlin l'Enchanteur, quoi. C'est-à-dire faire croire qu'il y a une poule aux œufs d'or qui serait cachée dans un placard de Bercy où ça fait 30 ans, donc, que personne, y compris les socialistes quand ils étaient au pouvoir et que leur ennemi était la finance, il y a 15 milliards cachés quelque part.
Jean-Philippe voilà, Tanguy,
franchement, c'est
là, là, on se perd un petit peu.
Le fait que les socialistes financent 90% de leur programme par une taxe unique, excusez-moi, c'est
Merlin l'Enchanteur. On a entendu votre point de vue sur la taxe Zucman, mais juste sur la philosophie quand même de cette, IFF, hein, impôt sur la fortune financière, oui. Vous dites que ça rapporterait 3 milliards. Alors, l'Institut Montaigne, lui, parle plutôt de 2 milliards. Si je compare avec l'IFI d'Emmanuel Macron, l'IFI, c'est 2,2 milliards. Donc, grosso modo, votre impôt ou celui d'Emmanuel Macron, c'est à peu près
non, c'est
pareil.
En net. Même l'Institut Montaigne, c'est
or,
en net.
Or, l'ISF, hein, le bon vieil ISF, hein, rapportait 5 milliards. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous êtes finalement... comme Emmanuel Macron, à vouloir épargner les plus riches.
Non, pas du tout, sincèrement. Même l'Institut Montaigne, c'est en net de l'IFI, donc c'est pas...
IFI, impôt sur la fortune,
immobilière.
Qu'a maintenu. Là, on est dans les acronymes. Hein,
voilà, mais c'est à plus peu proche de ce qu'a dit Mme Bessaïd. C'est vrai que nous serions dans l'étiage de l'ancien l'ISF.
Mais donc vous faites comme Emmanuel Macron, quoi, si
non, bah, il l'a supprimé, Emmanuel Macron, l'ISF. Non, on faisait comme ont fait les gouvernements des années 80 jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est ça l'enjeu. Mais pourquoi il y a une réalité
sur les dépenses.
Non, mais derrière, il y a quoi ? Il y a un vrai débat sur les rapports de force aujourd'hui économiques. Moi, je regrette ce monde de la mondialisation financière où les plus riches et les plus grandes fortunes peuvent se balader dans le monde entier sans difficulté. Peuvent optimiser leurs revenus par rapport à celles et ceux qui n'ont pas ce privilège exorbitant. C'est le monde.
Alors vous êtes un peu un militant d'extrême gauche comme Gabriel Zucman.
Mais il y a toujours eu une part.
Vous trouvez qu'il est d'extrême
gauche ? Mais d'ailleurs, on nous qualifie, et moi en particulier, généralement d'extrême gauche, ce qui n'a aucun sens, puisque moi je suis gaulliste, et comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas la politique de la France à la corbeille, c'est-à-dire selon les volontés de la bourse. Je regrette ce monde tel qu'il a été construit, en particulier, il faut bien le dire, par les sociodémocrates. C'était Dominique Strauss-Kahn, c'était les grandes heures, si je puis dire, des sociotraîtres. Ce monde, il est comme ça, il faut faire avec, et malheureusement, si on fait la taxe Zucman, ce sera au détriment de la France, et il n'y aura pas le rendement. Voilà, je le dis, moi j'aimerais bien pouvoir faire une justice fiscale, verticale, depuis notre République, et imposée au monde entier. Malheureusement, on est dans un rapport de force, avec beaucoup de pays qui choisissent d'être des parasites fiscaux, et ça c'est un vrai problème, y compris des démocraties, qui font volontairement le choix, non pas de la justice fiscale, mais de piquer du fric à leurs voisins.
Alors, parlons des dépenses toxiques, ça c'est le vocabulaire de Marine Le Pen que vous voulez couper. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un chiffre, parce que 44 milliards c'était le chiffre de François Bayrou, 22 milliards c'est le chiffre des socialistes, vous avez quel chiffre pour le budget 2026 ?
Nous avons le chiffre de François Bayrou, il faut faire, c'est un montant d'économie qui avait été donné par la Cour des comptes, par le Haut Conseil des finances publiques. En fait, il s'agit de faire quoi derrière ? Il s'agit...
Donc vous voulez... Non, on vous entend bien, vous voulez faire également, le Rassemblement National, une quarantaine de milliards d'économies, 44 milliards d'économies.
C'est-à-dire qu'il faut faire sous 5 ans entre 100 et 120 milliards d'économies pour stabiliser la dette, et encore en stabilisant la dette, il y aura encore des intérêts d'emprunt qui augmenteront. La France est vraiment dans une situation financière très difficile. On est dans une situation proche de l'Italie et c'est pas folichon.
Alors on coupe sur
La contribution à l'Union européenne, question directe, on met 27 milliards. Est-ce que vous ne craignez... La construction européenne, l'Europe, c'est pas seulement un projet comptable, c'est un projet politique. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en disant « bon bah, give me my money back », comme Margaret Thatcher, on se retrouve avec des mesures, bah, des retours de bâton, par exemple pour les agriculteurs, on est les premiers bénéficiaires de la PAC?
Non, parce qu'en net, on est les deuxièmes contributeurs avec l'Allemagne. Tous les pays contributeurs, en dehors de l'Irlande, qui se paient sur la bête en étant un parasite fiscal, ont un rabais. Et la France, les gouvernements français n'ont pas, comment dire, négocié à égalité avec l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, c'est le rabais absolument incroyable. C'est dommage, voilà. Mais derrière, il y a quoi? C'est pas Merlin l'Enchanteur comme les socialistes. Il faut annuler effectivement un certain nombre de programmes européens qui nous paraissent contraires au vote des Françaises et des Français. Voilà, continuer à financer l'élargissement dans les Balkans ou vers la Turquie ou la Moldavie ou l'Ukraine, je parle de l'élargissement, pas de la lutte contre la Russie, alors que les Françaises et les Français, dans tous les sondages et dans tous les votes, ne veulent plus d'élargissement.
Mais on est dans le club des 27. Donc là, vous dites, on reprend notre argent et puis on est contre la politique,
politique
choisie par les 27.
Mais excusez-moi, cette politique d'élargissement, il y a aucun pays ne le veut, aucune majorité en Europe ne le veut. C'est-à-dire qu'il y a toujours, au sein des institutions de l'Union européenne, ça fait aussi consensus à gauche d'ailleurs, un agenda contraire au vote des citoyens, y compris si on considère qu'il y a une démocratie européenne. D'ailleurs, personne n'assume aujourd'hui, dans le débat aux élections européennes, c'était seulement il y a un an, est-ce que vous avez entendu des gens défendre l'élargissement aux Balkans ou à la Turquie? Personne. Alors pourquoi on continue à financer cela?
Il y a une c'est pour l'Europe.
Non, mais il y a une représentation internationale.
On était sur des dépenses.
Des dépenses derrière.
J'entends, mais je crois qu'on a compris.
D'accord, oui, mais c'est important de dire comment aussi on fait des économies sur l'Europe.
On peut aller sur le sujet de l'immigration, où là aussi, Alix Bouyagué,
C'est vrai que dans vos pistes d'économie, il y a donc l'immigration, mais quand vous regardez ce que les immigrés reçoivent du budget et ce qu'ils rapportent en impôts et cotisations, c'est vrai que toutes les études qui sont sérieuses là-dessus sont totalement affirmatives, c'est à peu près neutre. Donc, contrairement à ce que vous dites, le coût de l'immigration, c'est autour de zéro. Donc vous pointez du doigt un mal qui n'en est pas un.
Alors déjà, on pointe pas, les immigrés ne sont pas un mal, ce sont des êtres humains et des personnes. Mais le phénomène de l'immigration, étudié par l'OCDE, puisque c'est cette étude qui fait référence, il y a un détail dedans. Il y a l'immigration qualifiée, c'est l'immigration au sein de l'Union européenne, par exemple, c'est les Américains, les Japonais, ou des personnes qui viennent de pays pauvres qualifiés. D'ailleurs, on pille les ressources intellectuelles de ces pays au passage. Eux, ils rapportent, évidemment. C'est sûr qu'un médecin à l'hôpital français, il rapporte plus qu'il ne coûte à la France, puisqu'on n'a même pas payé sa formation. Mais la masse de l'immigration aujourd'hui en France, elle est non qualifiée. Et d'ailleurs, elle ne travaille pas. Le taux de chômage des étrangers est bien supérieur aux nationaux.
Bon, mais au global, comme dit Alice Bouyagué, ça fait zéro. Ça fait zéro. L'OCDE dit ça.
Non, mais c'est pas une bonne moyenne. Oui, mais si on gardait que l'immigration qualifiée, Mme Ben Saïd, comme d'autres pays, eh bien, la contribution d'immigration serait très positive. Mais aujourd'hui, elle est à zéro, parce qu'en fait, vous avez une immigration qualifiée très minoritaire qui rapporte, c'est vrai, beaucoup aux finances publiques, et vous avez une masse d'immigration non qualifiée qui coûte beaucoup aux finances publiques. Or, nos mesures, contrairement à ce qu'on nous dit à chaque élection, elle ne vise pas à expulser les médecins, les infirmières ou les ingénieurs qui viennent travailler en France.
On coupe quoi? Un exemple?
Par exemple, les étrangers au chômage depuis 6 mois. Ils ne doivent pas rester sur le territoire. Nous ne sommes pas, y compris d'ailleurs les Européens, nous ne sommes pas voués à entretenir des personnes qui n'ont pas leur utilité sur le territoire, leur utilité professionnelle. Et toutes sur les 500 000 étrangers légaux qui ont eu un visa l'année dernière, il y en a 50 000 qui ont eu un visa de travail. Et on nous parle d'une immigration choisie. Ça ne correspond
pas
à la réalité.
Après, il y a les étudiants, n'est-ce pas? Première raison, c'est les étudiants. Deuxième, c'est le regroupement familial.
Dans les étudiants, il y a un tri à faire entre les étudiants qui font vraiment des études et des étudiants qui ont un visa d'études et qui font autre chose dans notre pays et qui n'ont pas vocation à rester.
Question d'Abel Mestre.
François Bayrou, vous voulez limiter l'aide médicale d'État. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller plus loin?
Alors déjà, ça a disparu depuis que Monsieur Le Cornu, le décret, ont été mis à la poubelle. Alors, c'était une toute petite réforme, il faut aller plus loin, mais en fait, il faut un principe. Si vous êtes clandestin...
Mais excusez-moi, là, vous le réclamez à nouveau?
Oui, bien sûr qu'on le réclame. Ah oui, non, mais on le réclame
donc
à nouveau.
Donc la suppression ou la limitation?
La transformation en une aide médicale d'urgence, c'est-à-dire qu'évidemment, nous soignons les étrangers en situation régulière qui arrivent aux urgences, qui ont des maladies graves, des maladies dangereuses pour eux ou pour la communauté nationale. Par contre, il n'y a pas de soins de confort ou des soins qui ne sont pas des urgences vitales. Voilà, c'est tout simple. De toute façon, et la vraie politique derrière, c'est quoi? C'est lutter contre les clandestins. Parce qu'évidemment, derrière, ce n'est pas l'AME seulement. C'est pourquoi il y a entre 500 000 et 800 000 clandestins dans notre pays qui n'ont pas leur place dans notre pays. Voilà, et faire appliquer la loi, c'est quand même républicain. Et les gens le supportent, y compris d'ailleurs, je peux vous le dire, parce qu'on le voit beaucoup en Ile-de-France, et évidemment on est sur le terrain, des étrangers en situation régulière qui ne comprennent pas pourquoi ils ont moins de droits, même eux, que les clandestins, les immigrants en situation irrégulière.
L'immigration côté politique, c'est aussi cette pétition dont on a beaucoup entendu parler, hein, celle de Philippe de Villiers pour exiger un référendum sur l'immigration. Du côté du Rassemblement National, Louis Alliot, le maire de Perpignan, et Julien Odoul, député, l'ont signé. Il y a aussi Éric Ciotti, il y a également Éric Zemmour. Chez les Républicains, Laurent Wauquiez. Et vous, est-ce que vous pourriez adhérer à un texte qui parle explicitement, pour le coup, de grand remplacement? Nous sommes en train de changer de peuplement, d'art de vivre. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fond avec cette pétition qui parle de la fin de la France?
Bah, c'est une pétition qui s'inscrit dans une, comment dire, les demandes qu'a fait le Rassemblement National depuis des années. Mais si on ne, comment dire, on ne signe pas le texte, si Marine Le Pen demande aux députés de ne pas signer le texte, c'est
pourquoi
pas parce qu'on est contre.
Louis, Julien Odoul l'a fait.
Oui, mais la consigne officielle est systématique.
Il a fait une bêtise.
Il ne fait pas une bêtise, il n'a pas besoin de nous pour se justifier. Mais la consigne sur toutes les pétitions, c'est de ne pas de signer. Pourquoi? Parce que on est des responsables politiques, on est des élus. Et donc, par définition, si on signe une pétition d'un tiers politique ou d'un tiers syndical ou d'une organisation, on n'est pas maître de l'avenir de cette pétition. Et donc, un homme politique, une femme politique, une organisation politique, elle doit être maîtresse de ce qu'elle fait et de ce à quoi elle s'engage, du début à la fin. C'est pour ça aussi qu'on est très prudent sur les manifestations.
Vous organisez beaucoup de pétitions, enfin, vous lancez beaucoup de pétitions sur.
Interne, effectivement. Les pétitions internes, oui. Mais externe, tout de suite, c'est sûr, et vous voyez bien, bah, si demain Philippe de Villiers prend des positions qui ne sont pas celles du Rassemblement National sur d'autres sujets, on pourrait être lié à lui. Bon, sur la longue durée, Philippe de Villiers, c'est un souverainiste.
Sur le fond du texte.
Vous ne répondez pas sur la question, sur le fond du texte. Est-ce que ce grand remplacement, le fait de changer de peuplement, d'art de vivre, parler de la fin de la France, est-ce que vous, ce sont vos mots? Est-ce que c'est votre vision de la France?
Le concept de
celle de Philippe de Villiers.
Marine Le Pen et Jordan Bardella ne se sont jamais associés au concept de grand remplacement, qui désigne, comment dire, une espèce de complot, de volonté organisée de substituer une population par une autre sur une base raciale qui ne correspond absolument pas, comment dire, à la conception qu'a le Rassemblement National de la population française. En revanche, l'immigration de masse, si elle est incontrôlée, si elle se fait de manière complètement désordonnée et subie, évidemment, l'origine culturelle et le destin culturel du continent européen va changer, tout simplement parce que les immigrés sont des êtres humains, donc ils viennent avec leur culture, leur civilisation, leurs croyances, et évidemment, ils n'ont pas envie d'être, de s'oublier au passage, et donc si vous avez des populations très importantes, il va y avoir une influence culturelle, c'est évident, mais c'est pas lié à un grand emplacement organisé, volontaire. En fait, le paradoxe, c'est qu'en utilisant le concept de grand emplacement, nous donnons beaucoup de crédit à nos adversaires politiques, comme s'ils avaient les moyens d'organiser quelque chose, alors qu'en fait, ils subissent, ils sont lâches, ils sont faibles, et d'ailleurs, aux élections, ils dénoncent leur propre politique migratoire avant de la continuer.
Avec cette pétition, on voit aussi qu'il y a une sorte de petit milieu qui s'organise, sûrement contre vous, enfin contre le Rassemblement National, la presse Vincent Bolloré, Éric Zemmour, une partie de LR. Est-ce que vous craignez cette concurrence qui pourrait vous dépasser par la droite? Parce qu'on voit bien, vous avez bien expliqué vos réticences à reprendre le concept de grand remplacement. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations pour 2027?
Sincèrement, non. Écoutez, nous on pense qu'on a une antériorité sur le sujet de l'immigration, de la souveraineté d'une manière générale, et que les Françaises et les Français nous ont bien identifiés. Et surtout, je ne suis pas inquiet, parce qu'en fait, je pense que ça correspond à ce que veulent, au fond, civilisationnel français. La civilisation au croisement des humanités, de l'héritage des humanités antiques, de nos racines chrétiennes, de la Révolution et des Lumières. Je pense que ça correspond à la conception universaliste française, à savoir contrôler ses frontières, contrôler le destin et là où on veut arriver, assimiler les populations qui font le choix de s'installer dans notre pays, reconnaître la grandeur de la civilisation, mais que toute ambiguïté racialiste ou ce genre de choses ne correspond pas du tout à ce que veulent une très grande majorité de Français. Et c'est d'ailleurs aussi l'erreur d'une petite partie de la gauche qui malheureusement devient de plus en plus grande et se nourrit aussi des mauvaises pensées d'une partie de l'humanité.
Une toute dernière question sur l'économie, Jean-Philippe Tanguy, avant de passer à l'international. Pendant que vous parliez là, à l'instant, dans ma tête, j'étais en train de faire les calculs. Vous dites que vous voulez 44 milliards d'économies comme François Bayrou, mais vous demandez aussi la retraite à 60 ou 62 ans, c'est à peu près 37 milliards. Vous dites que vous ne voulez pas augmenter les impôts. Quand vous voulez faire l'impôt sur les fortunes financières, vous dites que ça va être redistribué immédiatement. Ça boucle pas financièrement?
Si, si, bah écoutez, on vous représentera, de toute façon, pour le projet de Marine Le Pen en 2027, le bouclage financier, mais c'est vrai que ce sont des choix de société importants.
Mais pourquoi vous ne le faites pas là? Pourquoi vous ne montrez pas là que vous voulez arriver à sous les 3% de déficit?
Ah ben on l'a fait pour l'année dernière. Là, on va représenter un contre-budget qui, comment dire, caractérise ces 44 milliards d'économies. Vous le savez bien parce que je vous écoute dans une autre émission économique de très grande tenue que j'invite tout le monde à écouter. Les 37 milliards sur les retraites, c'est à terme. Il ne faut pas les trouver l'année dernière. Voilà. Vous savez bien que c'est une estimation de déficit à terme. Et là, nous, on mise aussi beaucoup sur la croissance. C'est-à-dire que vous avez deux types de dépenses à prévoir. Vous avez des dépenses comptables, effectivement, les dépenses de l'État. Il ne faut pas trop compter sur la croissance parce que c'est
ça. Bah non.
Voilà. Par contre, sur les retraites, il faut quand même, si évidemment on abandonne tout espoir sur la productivité, sur notre capacité à faire travailler plus jeunes les Français, à accompagner les aînés pour qu'ils ne soient pas au chômage de longue, jusqu'à avant la retraite, et aussi les personnes en situation de handicap qui représentent une force de travail compétente dans notre pays qui est sous-utilisée, à leur détriment et pour leur malheur, eh ben c'est sûr qu'on ne pourra pas financer les retraites. Mais nous, notre projet, c'est que tout le monde contribue et il y a beaucoup de force de travail en France qui n'est pas utilisée.
Question politique sur France Inter.
La section internationale, la séquence internationale. On va parler maintenant de l'État de Palestine, Alix Bouyaguet.
Oui, on sait que le Rassemblement national a toujours été favorable à une solution à deux États, hein, c'est-à-dire un État israélien et un État palestinien. Pourquoi être opposé aujourd'hui à la reconnaissance de l'État de Palestine? Vous dites que c'est une affaire de timing, mais quand on regarde ce qui se passe depuis des dizaines d'années sur ces territoires, on sait qu'il n'y a jamais de bon timing pour une guerre voilà, qui dure depuis une dizaine d'années, des dizaines et des dizaines d'années, vous voyez.
La France reconnaît demain officiellement à l'ONU l'État de Palestine.
Mais vous avez raison, Mme Bouyaguet, de dire effectivement dans ce conflit, il y a rarement eu des périodes favorables à cette reconnaissance. Mais là, c'est une période très défavorable. Tout simplement parce que malheureusement, nous sommes encore dans les lendemains du pogrom du 7 octobre, de ces attaques meurtrières épouvantables contre Israël, revendiquées par le Hamas et d'autres organisations proches d'elle dans cette dérive meurtrière et complètement antisémite, et que le reconnaître maintenant, c'est une forme de prime. J'imagine que le président de la République ne l'envisage pas comme ça, mais c'est ressenti par beaucoup d'Israéliens et d'amis d'Israël et de Français de confession juive comme cela, comme une reconnaissance que la violence et la violence terroriste peut amener à un gain politique.
C'est
et
ça, un c'est... des arguments de Marine Le Pen hein, qui dit effectivement que le futur État palestinien ne soit pas dominé ou contrôlé par le Hamas. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le Hamas n'a jamais été aussi faible?
Malheureusement, je le regrette, mais je pense qu'il n'est pas, il est affaibli militairement, évidemment, dans sa capacité à mener des opérations. Mais politiquement, je crains qu'il ne soit pas assez faible. Et surtout, au-delà du Hamas, c'est les autres forces politiques palestiniennes qui sont faibles. Voilà, l'OLP n'est que l'ombre de l'elle-même. Et malheureusement, la capacité de force, pas laïque, parce que faut pas confondre la France et le territoire palestinien, mais en tout cas de forces politiques capables de mener une politique d'intérêt général, pacifique, sont dans un état extrêmement, d'une très grande faiblesse. Voilà, et plus personne n'écoute M. Abbas et ses amis. Et je le regrette.
Jean-Philippe Tanguy, il y a une polémique aujourd'hui en France, parce que des mairies veulent brandir, hisser le drapeau palestinien sur leur fronton le jour où l'État français va reconnaître officiellement, je viens de le dire, à l'ONU l'État de Palestine. Est-ce que cette polémique vous paraît vraiment justifiée? Est-ce que c'est choquant que le jour où l'État fait un geste, une mairie en fasse un autre parallèle?
Bah, écoutez, c'est illégal et donc c'est l'occasion de rappeler qu'il y a...
Non mais c'est choquant, je vous demande votre conviction.
Ah, moi je suis choqué pour la raison que je vous ai donnée. C'est pas parce que M. Macron fait quelque chose qu'il n'avait pas annoncé dans aucune de ses campagnes électorales. Et bien au contraire, puisque c'est aussi pour ça que les Français de confession juive sont très en colère, c'est que M. Macron a complètement changé d'avis, les a complètement laissés tomber. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et je crains pour des calculs électoraux qui sont minables du début à la fin. C'est-à-dire croire qu'on a des Français aujourd'hui dans notre pays qui vont voter, soit disant par intérêt confessionnel, alors qu'ils vont et ne plus dire qu'ils vont voter par l'intérêt national en mettant la reconnaissance de la Palestine dans la balance, c'est honteux. Sacrifier les Français de confession juive attachés à l'intégrité d'Israël, c'est honteux. Voilà. Et dans la balance, M. Macron semble croire que les Français de confession juive, ils font entre 0,5 et 1% de la population, et les autres feraient plus de pourcentage. Ce qui, dans les deux cas, est un calcul de Machiavel, de pacotille, et complètement indigne d'un président de la République.
Abel Mestre, les États-Unis, autre chapitre.
Oui, sur l'hommage aujourd'hui rendu à Charlie Kirk, cet influenceur d'extrême droite qui a été assassiné le 10 septembre. Louis Alliot sera en Arizona pour cet hommage. Pourtant, il y a eu un hommage vendredi à Paris, où le Rassemblement National n'était pas présent, à part par deux députés, mais apparentés à votre groupe. Le parti aussi faisait bruyamment état de son soutien en 2016 pour Donald Trump. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus discret. Est-ce que le Rassemblement National est MAGA ?
Non. Et on n'est même pas FAGA, parce que ce serait encore du
franglais. C'est-à-dire FAGA.
J'ai dit n'importe quoi. Ce serait MAFA. Ouais. Non, ce serait MF. Bon, bref. C'est n'importe quoi. Bon, faut la comprendre en tout
cas. Est-ce que vous y seriez allé, vous, en Arizona? Est-ce que vous aviez envie d'y aller pour soutenir Charlie Kirk?
Rendre
hommage.
Non, mais moi, je soutiens toutes les familles, tous les proches, dont la famille a été victime d'un assassinat politique. Et je pense, je comprends même pas qu'il y ait des gens qui mettent une nuance, aient besoin de se justifier, de soutenir quelqu'un qui a été atrocement assassiné. La violence politique aux États-Unis et la liberté des armes à feu fait une société extrêmement violente. Il y a, je crois, une représentante démocrate qui avait été assassinée aussi il y a un ou deux ans. C'est terrible, voilà, c'est une société de violence. On a connu ça malheureusement dans notre pays au moment de l'attentat de Nanterre, par exemple, où un forcené avait pénétré dans un conseil municipal et avait tiré sur des innocents. Ouais, c'est un traumatisme mais pour tout le monde.
Louis voilà. Alliot, juste un mot quand même, il justifie son déplacement en disant que Charlie Kirk a marqué les esprits par le symbole qu'il est devenu. Moi, je vous pose la question, le symbole de quoi ? Du grand remplacement que ce militant conservateur dénonçait, de son opposition à l'avortement, à l'homosexualité considérée comme une maladie, à des femmes qui doivent rester à la maison et ne surtout pas prendre de contraceptifs parce que ça les mettrait en colère Qu'est-ce que vous venez faire là-bas, en fait ?
Ah, mais je crois que c'est juste un soutien contre la violence politique. Bon, nous, on pense que les femmes doivent être à l'Élysée, donc on est assez loin de cette conception, si vous voulez, effectivement, rétrograde. Mais bon, je veux dire, Monsieur Kirk serait un militant d'extrême-gauche, j'aurais exactement la même position. C'est pour ça que j'ai parlé du drame de Nanterre, qui concernait...
Et Louis Alliot serait allé un hommage à un militant d'extrême-gauche.
Mais si on avait été invité, je pense que nous y serons allés, madame. Voilà, c'est aussi ça la différence, c'est que nous, on va où si on a invité un hommage dans ma circonscription, et je pense que c'est le cas de tous les députés RN, si malheureusement il devait y avoir des violences politiques et qu'un adversaire politique de gauche était concerné, moi je serais le premier à venir défendre sa liberté. Moi, vous savez, je suis voltairien, alors je sais que la citation est sans doute apocryphe, mais voilà, je battrai pour la liberté des autres, et la liberté, je mourrai pour la liberté des autres, c'est-à-dire opinions contraires aux miennes. Voilà, cet esprit voltairien français, il devrait faire consensus. Je regrette aujourd'hui qu'on ait besoin de se justifier, de refuser un attentat politique contre quelqu'un. Voilà.
Bon. On parle de la Russie, Jean-Philippe Tanguy.
Excusez-moi.
On a quand même une actualité là avec ces incursions d'avions russes en Estonie. Demain, il y aura une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a eu des drones en Pologne, des drones présumés russes aussi en Roumanie. Est-ce que là, on en est encore à parler d'incidents comme le faisait Marine Le Pen en début de semaine ?
Mais il faut établir les faits. Nous, ça nous paraît des incidents dans le sens où ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir. Mais
des MiG-31, c'est un incident.
J'ai vu les cartes des passages, ça a l'air des provocations en l'occurrence. Là. Madame Marine Le Pen, vous le savez, parlait des drones. Mais si vous voulez, le but, c'est d'établir les faits, de défendre la souveraineté, évidemment, des frontières de nos alliés de l'OTAN et nos alliés européens, sans aucune concession, et d'établir un rapport de force avec la Russie, mais d'éviter l'escalade à la guerre. Là, je me souviens qu'il y avait un missile au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui avait un missile qui était tombé sur le territoire polonais. Toute la presse européenne s'était emballée vers une escalade à la guerre. Et puis finalement, ce missile, visiblement, n'était pas celui qu'on pensait. Donc moi, je ne sais pas. Voilà. Donc moi, j'attends que les faits soient établis, mais il faut qu'ils soient clairement établis et que des mesures correspondant à la gravité des faits soient prises. Et nous, il est évident nous sommes des souverainistes, des patriotes. Il est évident que la Russie, sous aucun prétexte, ne peut franchir les frontières terriennes ou aériennes de nos alliés.
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Question politique.
Jean-Philippe Tanguy, vous êtes sur France Inter, l'invité de Question politique. C'est le moment du Qui êtes-vous d'Alix Bouyagué. On va tenter de mieux vous connaître.
On a fait tomber deux fois un gouvernement parce que justement ils augmentaient les impôts, Madame Lambré. Donc évidemment qu'il faut pas
avec
augmenter
vous,
les impôts.
Avec zéro aux impôts, même sur les plus riches.
Mais parce qu'encore une fois, moins de riches, ça fait pas moins de.
Oui, j'ai une part féminine quand même.
On va essayer de mieux vous connaître. En effet, là c'était Laure Lavalette, pas du tout le bon son. Je pense que là, le bon son est dans les tuyaux.
Alors, silence. Alors. Oh, ce cri du cœur. J'avoue,
Monsieur Tanguy, s'il vous plaît.
Respirez, je pense beaucoup de gens parmi nous.
Chers
je vous
collègues.
En prie, collègues de gauche.
Monsieur Tanguy, s'il vous plaît.
La France... Silence pour la France.
Donc ce silence, un silence pour la France déclamé avec en phase à la tribune de l'Assemblée nationale, c'était le 21 juin 2022. Alors c'est vraiment 100% vous, Jean-Philippe Tanguy. On va parler de votre parcours, mais avant ça, vous êtes avant tout un style indéniable. Hein, votre voix, vos formules qui claquent, le sens du verbe, ça vous a même valu le prix du député de l'année en 2024 hein, par le Trombinoscope. C'est une institution parlementaire, mais... Est-ce que vous n'en regrettez pas certaines, quand même, de vos formules? Elisabeth Borne, une bonne à rien. Michel Barnier, un fossile. Ou lorsque vous dites d'Emmanuel Macron qu'il savait solliciter les aspirations homo-érotiques d'un certain nombre de cadres de la banque Rothschild. Est-ce que vous les assumez toutes?
J'assume tout, et c'est pour ça que je m'excuse parfois, parce que si vous excusez sans assumer, c'est pas des vraies excuses. Donc pour ce qui est de Michel Barnier, je m'étais excusé. Et pour ce qui est de Monsieur Macron aussi, d'ailleurs. Bon.
Mais ceux qui vous aiment disent qu'effectivement vous êtes un créatif, vous êtes le bosseur du Rassemblement National, vous êtes devenu l'homme de confiance de Marine Le Pen. Ceux qui vous aiment un tout petit peu moins disent que vous êtes certes un collaborateur précieux, mais parfois, je cite, un dangereux, foutraque, exalté, sans filtre. Ça va vite dans votre tête, quitte à partir en vrille au risque d'apparaître comme un roquet. Est-ce que vous entendez?
Bah, il faut toujours faire attention à ne pas être la caricature de soi-même, c'est sûr. Donc, sans doute, moi, je m'admire pas dans le miroir, je m'écoute pas parler. Hein, j'essaie. Mais bon, c'est vrai que je préfère prendre ce risque, sacrifier la sincérité. Voilà. Donc, moi, j'essaie d'être sincère dans mon combat. Et voilà. Je pense que je suis plutôt heureux de ne pas m'être trahi. Mais ça arrivera peut-être un jour. Hein. Vous serez là pour me le dire, j'espère.
Vous avez un CV brillant, oui, une ascension fulgurante aussi. Vous êtes diplômé de Sciences Po, Paris, de l'ESSEC. Vous avez été salarié d'Alstom.
Généritrique.
Pardon ?
Chez les méchants. Généritrique.
Vous commencez à travailler au service de Nicolas Dupont-Aignan. Et puis, bon, vous ralliez Marine Le Pen. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un moine soldat auprès de Marine Le Pen, la cheville ouvrière, notamment sur les questions économiques et de l'énergie?
Je ne suis pas seul, mais moi, si Marine Le Pen estime que je suis un moine soldat au service de son combat, j'en serais fier, parce qu'elle-même a beaucoup sacrifié pour nos idées, pour la cause nationale, une femme courageuse, qui a vécu beaucoup d'épreuves. Vous voyez, par exemple, moi, si j'étais avec M. Dupont-Aignan, c'est que je pensais que jamais Marine Le Pen ne romprait avec la ligne politique de son père. Je pensais que c'était impossible. Je me suis complètement trompé. Et cette femme a prouvé que c'était une femme d'État qui pensait à la France.
Donc vous êtes quand même, on peut le dire, le plus mariniste des marinistes.
Non, bon, vous savez, ça faut se méfier. Hein.
Est-ce que le plan B, comme Bardella, c'est moins votre tasse de thé? Est-ce que vous êtes moins en phase avec lui, humainement et politiquement?
Mais pas du tout, parce que Jordan Bardella procède de Marine Le Pen et du marinisme. C'est elle qui l'a repéré, lui a fait confiance. Il s'est engagé pour Marine Le Pen. Je trouve que cette division est très artificielle. Voilà, bon, par exemple, pour la petite histoire, je connais Jordan Bardella depuis très longtemps. Nous sommes amis depuis très longtemps. Je l'ai même connu avant Marine Le Pen.
Donc, pour vous, plan A, plan B, c'est super. Jordan Bardella 2027 à l'Élysée, c'est aussi bien que Marine Le Pen.
Il y a un plan A qui est Marine Le Pen. Elle est innocente de ce qu'on lui reproche. Elle arrivera à prouver son innocence dans une justice qui respecte les institutions de la République. Donc je n'ai aucun en fait doute sur le plan A. Et moi c'est vrai que je ne me projette pas sur d'autres plans parce que Marine Le Pen est dans un combat judiciaire, elle prouvera son innocence et on doit l'accompagner dans cette démarche et dans ce combat.
Votre profil diplômé, se revendiquant gaulliste, qui n'est pas issu du sérail du Rassemblement National, fait beaucoup penser à celui de Florian Philippot. Est-ce que parfois vous craignez d'avoir le même destin?
Écoutez, vous savez, il faut toujours rester modeste dans tout. Moi, avec Monsieur Dupont-Aignan aussi, j'ai appris à me battre pour des idées en faisant des scores très modestes. Et pourtant, je pense qu'on disait aussi des choses très intéressantes avec Monsieur Dupont-Aignan. Donc, vous savez, moi, je suis à mon poste, à mon combat. Et c'est vrai que j'essaie de ne pas penser à ma petite histoire personnelle. On verra bien, vous savez, on est peu de choses. Hein. Moi, je me souviens d'une très bonne citation de Bertrand Delanoë pendant la
le socialisme de Paris.
Voilà, en 2001, pendant la campagne de Paris, il y avait Monsieur Lang qui pensait qu'il était très connu, qu'il avait tout écrasé face à Monsieur Delanoë, et Delanoë disait, vous savez, nous sommes peu de choses, et j'ai dit nous, pas moi.
On médite là-dessus, Jean-Philippe Tanguy.
Vous nous laissez sans voix.
Vous nous laissez sans voix.
Bah, elle est pas mal, cette citation.
Ce dimanche, on vous a demandé de, pour terminer le portrait de l'homme politique que vous êtes, de venir avec une carte blanche. Et vous avez choisi de parler d'industrie. Plus spécifiquement, les législatives, ça approche quand même, hein, d'une usine qui est dans votre circonscription, à Bernaville.
Oui, bon, faut pas m'arrêter, moi, de dire, j'en parle pas parce que c'est législatif, mais parce que c'est 68 familles et 10 familles, hein, avec des intérimaires.
Dites-nous qui ils sont.
C'est la Société Française de Génoplastique à Bernaville, qui est une industrie qui travaillait pour le luxe, qui a vraiment un savoir-faire extrêmement rare. C'est ce qui permet au plastique, qui fait les capuchons de parfum, d'être métallique, d'être en or, en argent, d'être si beau, et aussi de représenter le patrimoine et le savoir-faire français à travers le monde. Malheureusement, à cause du prix de l'électricité, des normes, de la concurrence chinoise, cette entreprise ferme du jour au lendemain. Demain, on essaie de trouver une solution. Mais au-delà de ça, c'est aussi les mensonges sur la réindustrialisation. Pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les rapports le disent, y compris M. Luanci qui vient de la gauche, en fait, l'État parle beaucoup, mais se désengage de toutes les PME, PMI, ETI. C'est-à-dire qu'on est obsédé par les grands projets, par exemple les usines de batteries,
ETI, entreprise de taille intermédiaire. Oui.
Voilà, donc l'État est obsédé par les très grands projets, ce qu'on appelle les flagships, donc c'est ces navires amiraux qui font beaucoup de une et comment dire, ne s'intéressent pas au cycle intermédiaire.
Mais la question, c'est quand même, que pouvez-vous faire ? Enfin, je veux dire, la question doit se poser les auditeurs.
J'ai parlé d'eux parce que vous le savez.
Parce que Whirlpool, ça a fermé. Tout le monde y est allé, y compris Marine Le Pen, ça a fermé.
Oui, mais enfin, avec beaucoup de mensonges. Et il y a des gens qui étaient à Whirlpool qui ont connu 5 employeurs différents en 5 ans parce que l'État les trimballait et faisait n'importe quoi. Donc le fait que l'État ne s'intéresse pas aux entreprises de taille intermédiaire, aux petites industries, parce qu'ils trouvent que c'est ringard, que se dépasser, c'est lamentable. Et cette entreprise, elle peut avoir des fournisseurs, elle peut avoir des repreneurs. Et moi, je ne veux pas qu'on la ferme sans chercher un repreneur, parce que il y a le destin des salariés. La moyenne d'âge, c'est 49 ans. Donc, ce sera très difficile pour eux de retrouver un emploi si le site n'est pas préservé. Bernaville est une petite commune rurale assez isolée. Et puis, c'est le pouvoir d'achat derrière aussi. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez dans votre commune, quand vous pouvez aller à pied dans l'usine où vous travaillez, vous prenez pas la voiture. Il y a l'enjeu écologique, mais il y a le pouvoir d'achat. C'est 200 à 300 euros d'économiser par mois. Donc quand vous êtes à 1500 euros, bah, le fait d'avoir une usine à proximité de votre lieu de travail, ça change la vie. Ça change le confort de vie et ça change le pouvoir d'achat.
Il faut trouver une solution, évidemment, voilà.
Mais c'est sûr que c'est pas glamour et qu'il faut que les services de l'État arrêtent de vouloir couper des gros rubans sur des grosses usines avec des gros projets et s'intéressent aux projets modestes et aux compétences qui sont déjà chez nous plutôt que d'aller essayer d'en créer des nouvelles.
Question politique. Sur France Inter.
Jean-Philippe Tanguy, vous parliez du pouvoir d'achat, excellente transition avec la séquence France 2027 d'Abel Mestre.
Oui, exactement. Marine Le Pen avait fait du pouvoir d'achat son axe principal, ou un de ses axes principaux de la campagne de 2022. Vous venez d'en parler, ça reste encore dans le discours du Rassemblement National. Cependant, vous êtes absent des mobilisations, en tant que parti bien sûr, des mobilisations sociales, que ce soit le 10 septembre, hors cadre syndicaux et partidaires, ou du 18 septembre, à l'appel de l'intersyndicale. Et dans le même temps, vous déployez énormément d'efforts pour séduire le patronat français. Comment vous pouvez espérer concilier à la fois ce mouvement pour rassurer le patron et garder le pouvoir d'achat au centre de votre discours ?
Moi, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la production, la capacité de produire ensemble et sur le territoire, qui est le premier critère pour améliorer les salaires sur la longue durée, améliorer la productivité et pouvoir vivre de son travail. Si on n'arrive pas à produire en France, si les entreprises n'arrivent pas à produire en France, on peut parler de pouvoir d'achat, il n'y aura rien. Voilà, il n'y a pas de chèque magique, il n'y a pas d'allocation magique, il n'y a pas de subvention magique. L'argent ne vient que d'une poche, celle des contribuables, soit les familles, soit les entreprises. Voilà, donc... Pour moi, il n'y a pas de contradiction. Vous avez la gentillesse de rappeler que je m'inscrivais dans la lignée du général de Gaulle. C'était toute la politique du général de Gaulle. C'était dépasser la lutte des classes par le travail, par la participation des salariés, par l'intéressement des salariés au profit des entreprises. Donc pour moi, tout ça va ensemble. Produire en France et répartir la richesse avec justice, ça va ensemble. Mais on ne peut pas répartir une richesse qui n'est pas produite ou qui est en déclin. Et vous savez que depuis 2008, le PIB par habitant en France stagne. Et ça, je regrette que lors des différentes élections, on n'ait pas parlé de ce sujet. Parce que compter le PIB en valeur absolue, ça n'a aucun intérêt. C'est le PIB par habitant, c'est la richesse par habitant qui compte. Donc quand le PIB par habitant, il stagne depuis bientôt 20 ans, Bah, évidemment, le pouvoir d'achat, il s'effondre et aucune allocation, aucun chèque ne peut résoudre cette question, sauf par l'endettement. Voilà. Et donc, la boucle est bouclée. Et j'aurais préféré que M. Bayrou explique ça, plutôt de dire que c'était la faute des Français.
Malgré tout, on a l'impression quand même qu'au Rassemblement National, il y a deux discours. Il y a le discours que vous venez de tenir, hein, qui est celui de Marine Le Pen aussi, plus populaire, plus préoccupé par les questions sociales, et celui de Jordan Bardella, plus pro-business, plus libéral. Vous avez deux leaders qui peuvent être potentiellement deux candidats à l'élection présidentielle, pas forcément concomitamment, hein, mais l'un ou l'autre. Est-ce que si Jordan Bardella était le candidat du Rassemblement National en 2027, la question du pouvoir d'achat aurait la même place qu'en 2022?
Ah mais j'en suis persuadé, ne serait-ce que parce que Jordan Bardella, même par sa vie personnelle, c'est lui qui le dit, donc c'est pas un secret. La mère de Jordan Bardella avait un petit revenu, mère solo, même si son père évidemment l'aidait également. Donc je pense que Jordan Bardella a complètement conscience par sa vie et le sens de son engagement que les fins de mois difficiles, même quand vous travaillez dur et que vous êtes une mère solo, c'est fondamental dans la vie. Et
mais vous assumez les deux tonalités.
Mais il y a différentes tonalités, moi j'espère, enfin je pense que...
Économiquement, dans un programme, c'est dur à rejoindre. Hein.
Et oui, mais je pense qu'aussi, il y a vraiment un procès, qui est un peu une chasse aux sorcières sur ça, parce que, par exemple, on a sorti le programme économique du Rassemblement National pour prouver que c'était faux. C'est Jordan Bardella qui l'a présenté avec votre serviteur à ses côtés, et puis même après qu'on ait montré que c'était le même programme de Jordan et de Marine, on nous dit que c'est toujours pas le même programme. Donc je pense aussi qu'il y a une volonté de nos adversaires politiques de toujours vouloir inventer des divisions qui n'existent pas, et je comprends qu'ils soient jaloux qu'on ait le deux plus populaires dirigeants en France, d'ailleurs, si les électeurs, ouais. Si les, oui, à l'instant, évidemment, madame, vous avez raison. Mais, comment dire, et je pense que si les électeurs voyaient une si grande différence, vu que nous faisons 70% chez les ouvriers, 60% chez les employés, s'ils voyaient pas que Jordan Bardella était sur le pouvoir d'achat, je crois qu'il serait pas aussi populaire.
À l'instant, François-Xavier Bellamy, le numéro Oula. 2 des Républicains, dit que Marine Le Pen n'a pas renoncé à son programme qui s'aligne souvent sur celui du NFP.
Eh ben, c'est pitoyable de la part de Monsieur Bellamy, qui s'inscrit dans la doctrine sociale de l'Église, d'être venu enfin une espèce de, comment dire, de larbin du grand capital et des puissances de l'argent. Parce que quand on se prétend avoir s'inscrire dans les valeurs stoïciennes, chrétiennes, de la civilisation française, ben, on n'est pas là à caricaturer les positions économiques et à essayer d'être toujours du côté des forces de l'argent. Moi, j'invite Monsieur Bellamy, plutôt que de faire la morale, comment dire, sur les questions de mœurs au monde entier, à faire la morale un peu à ceux qui oublient la doctrine sociale de l'Église. Je crois que l'argent n'est pas au centre des valeurs chrétiennes. Voilà, j'ai gardé ça quand même de mon éducation catholique.
Faisons un peu de politique fiction. Imaginons que le candidat ou la candidate du Rassemblement National gagne la prochaine présidentielle en 2027. Quelles seront les premières mesures urgentes pour le pouvoir d'achat des Français?
Ah bah c'est la baisse de la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5 et la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité de 5,5 à 0%. C'est un mouvement indispensable. Il y a une crise de la consommation, il y a une forme de déconsommation, on le voit dans notre pays. Les Français épargnent parce qu'ils ont peur que leur pouvoir d'achat soit confisqué. Donc au-delà de la justice fiscale, il faut envoyer un signal aux Françaises et aux Français de consommer à nouveau et de ne pas épargner davantage qu'il ne faut rationnellement. Mais on voit bien aujourd'hui, et ils ont raison d'ailleurs, depuis que les Françaises et les Français ont conscience qu'il va falloir payer la dette, qu'ils épargnent parce qu'ils sentent bien qu'avec les macronistes ou la gauche, c'est eux qui vont payer la facture. D'ailleurs, François Bayrou l'avait dit. On peut au moins lui reconnaître d'avoir dit la vérité.
Justement.
Mais vous promettez plus de pouvoir d'achat, mais si vos mesures font, par exemple, exploser les taux d'intérêt, le coût du crédit, est-ce que c'est pas finalement les classes moyennes et populaires qui vont finir par payer la facture ?
Je ne vois pas pourquoi nos mesures feraient exploser le coût du crédit. Bon, au-delà de la politique de la Banque Centrale Européenne qui est indépendante, je ne vois pas pourquoi nos mesures, au contraire. Ce qu'il faut, c'est présenter un plan crédible. Et quand, aux dernières législatives, le Rassemblement National a été les seuls à assumer un effort de 95 milliards d'euros d'économies structurelles, aujourd'hui on a 120 milliards, entre 100 et 120 milliards, malheureusement vu la situation, nous on joue carte sur table. D'ailleurs, à l'époque, moi j'avais rencontré pour Jordan Bardella un certain nombre d'investisseurs et de représentants des marchés pour les rassurer, leur expliquer notre plan. Il n'y avait pas eu spécialement, comment dire, de retour, que ce soit par exemple l'agence Reuters que j'avais rencontré, qui est assez en lien, ou Bloomberg, qui sont assez en lien avec les marchés financiers. Ils n'avaient pas exprimé d'inquiétude particulière sur le programme du Rassemblement National. Par contre, pendant que Monsieur Le Maire, qui était ministre de l'économie et des finances, qui au lieu de rassurer les marchés, faisait le tour des plateaux pour dire que c'était une catastrophe et qu'il a alimenté, l'hystérie et donc a renchéri le coût de la dette. Là, c'est un vrai problème de responsabilité politique. Peut-être qu'un jour, si les hommes politiques paient tout ou partie de la facture qu'ils causent et le mal qu'ils causent aux Français, peut-être qu'ils se calmeront un peu.
Jean-Philippe Tanguy, cette émission touche à sa fin. Si vous voulez bien, on va se lancer dans une séquence vrai ou faux. Je vous pose une question, je dis une affirmation, vous dites vrai ou faux. Ça va vite. L'ancien insoumis François Ruffin est un bon député de la Somme, vrai ou faux?
Faux. Oh.
Vous vous déplacez quasiment toujours avec un sac de sport, vrai ou faux ?
Vrai.
Gabriel Zucman est un militant d'extrême-gauche, comme le pense Bernard Arnault. Vous êtes d'accord, vrai ou faux ?
Non.
Au Rassemblement National, liste candidat, si tout le monde est prêt, voire ou se prépare aux législatives.
Oui.
Vrai ou faux ? Vrai.
Vrai, pardon, excusez-moi.
Marine Le Pen serait une meilleure candidate à la présidentielle que Jordan Bardella, vrai ou faux ?
Vrai, mais il le pense lui-même.
Vous avez déjà menti sur votre CV, vrai ou faux ?
Malheureusement, c'est vrai. Ah. Pour rentrer, oui, c'est vrai. Au Japon, je m'ennuyais, j'étais serveur, je m'ennuyais tellement que j'aurais fait croire que j'étais diplômé pour rentrer chez Hitachi. Voilà, je m'excuse, voilà. Monsieur Bellamy, j'irai à confesse.
La justice fiscale imposerait de taxer les plus gros héritages et ce débat-là, c'est une vraie ligne de fracture au sein du RN, vrai ou faux ?
Bah, faux, mais grâce à la deuxième partie.
Si Marine Le Pen est définitivement condamnée en appel, vous voulez une loi d'amnistie, vous l'écrirez, vrai ou faux ?
Faux.
Merci Jean-Philippe Tanguy, c'est la fin du Vrai Faux d'avoir répondu à nos questions politiques. Merci à la grande équipe de cette émission, Fabienne Lemoal, Alexandre Gilardi, Amaury Baucher, l'équipe du son, l'équipe de la vidéo. Nous vous souhaitons, auditeurs, téléspectateurs, un excellent week-end. Rendez-vous la semaine prochaine.